En avril 2019, l'État français lance le programme Designer d'intérêt général. Durant 6 à 12 mois, 21 designers et designeuses ont intégré une administration publique pour travailler sur l'un des 17 projets sélectionnés. Dans un communiqué, la DINUM, Direction interministérielle du numérique, partage l'objectif de ce programme: améliorer les services publics numériques en diffusant les nouvelles pratiques du design UX dans l'administration. Pour comprendre cette initiative, nous avons donné la parole à plusieurs invités. Christine Ballion est co-créatrice d'entrepreneurs d'intérêt général et de designers d'intérêt général. Cécile Canel est designeuse pour le projet Maritux, porté par le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Sarah Lepreux et Charlotte Boursier sont toutes les deux designeuses pour la mission Alphabet, portée par l'Éducation nationale. Maxime Beaugrand est designer pour le projet France Connect, porté par la DINUM. Dans le premier chapitre, le témoignage de Christine Ballion nous permet de découvrir la jeunesse du programme. Dans le second chapitre, nous donnons la parole à quatre designers et designeuses d'intérêt général. Leurs témoignages permettent de découvrir leur expérience au sein de leur administration respective. Dans le dernier chapitre, nos invités font le bilan de leur expérience. C'est l'occasion de découvrir leurs apprentissages et leurs réflexions. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Chapitre 1, découvrir le programme Designer d'intérêt général. Pour découvrir les origines de ce programme, nous avons rencontré Christine Ballion. Elle nous explique son rôle à la DINUM ainsi que l'ambition portée par Designer d'intérêt général: créer une communauté UX autour de l'amélioration des parcours en utilisant des méthodes centrées sur les utilisateurs et utilisatrices.
Je suis Christine Ballion et donc j'ai commencé à la DINUM en montant le programme Entrepreneur d'intérêt général avec Claire-Marie Foulquier d'Etalab. Et ensuite, forte de cette expérience, je suis arrivée à la DINUM pour travailler sur l'amélioration des services en ligne publics en utilisant tous les outils qui étaient proposés par la DINUM, donc que ce soit les API, France Connect et tous les outils qui permettent de faire des services en ligne de bonne qualité. Et là, aujourd'hui, je suis directrice du programme France Connect. Et donc, je m'occupe de généraliser et de développer France Connect auprès de toutes les administrations et les services privés autorisés à utiliser France Connect. Designer d'intérêt général, c'est un programme qui est né de deux sujets différents. C'est, dans un premier temps, il y avait une volonté de créer une communauté UX, donc autour de tout ce qui est amélioration des parcours utilisateurs en s'appuyant sur des méthodes UX, puisque en fait avec la DINUM, on avait fait le constat auprès de pas mal d'administrations qu'il y avait beaucoup de services en ligne qui étaient proposés mais qui n'intégraient pas du tout d'approche de parcours utilisateurs et donc de méthodes UX, et qu'il y avait un intérêt pour améliorer tous ces services en ligne à utiliser ces méthodes qui sont dans l'air du temps et qui fonctionnaient plutôt bien dans le secteur privé notamment. Et puis, j'avais eu l'occasion également d'échanger avec des homologues italiens donc qui avaient développé une démarche qui s'appelle Designer Italia, avec une approche autour de l'UX et de l'implémentation de méthodes UX au sein de grandes administrations publiques italiennes, qui étaient tout à fait intéressantes et qu'on souhaitait dupliquer, ou dont on souhaitait en tout cas s'inspirer en France. En fait, j'étais allée les voir pendant quelques jours en Italie pour voir tout ce qu'ils faisaient autour de l'identité numérique. Et ils nous avaient présenté tout ce qu'ils faisaient en fait sur le design. Et donc, ils avaient monté notamment tout un corpus de documentation avec des boîtes à outils, en fait, pour pouvoir intégrer des approches UX à la fois par des administrations, mais aussi par des prestataires qui pourraient être amenés à travailler pour le compte d'administration. Quand j'ai vu tout ça, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, et on s'est dit que c'était une bonne source d'inspiration et qu'il y avait sans doute matière à pouvoir s'inspirer de ce qu'ils avaient fait pour dupliquer un peu l'approche en France et en l'adaptant finalement au contexte français. Designer Italia, ils ont fait vraiment une boîte à outils très très compliquée et très documentée, etc. Et je crains que malheureusement elle ne soit pas beaucoup utilisée. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je trouvais que c'était une autre façon finalement d'intégrer une amélioration des services en ligne et puis surtout une autre façon de mettre les utilisateurs des services en ligne au centre, parce que ça, les administrations, elles n'ont de cesse que de dire « mais oui, bien sûr qu'on fait, évidemment qu'on fait des tests utilisateurs, etc. » alors qu'ils n'en font jamais. Et donc, je trouvais que c'était une façon un peu différente d'intégrer ce type d'approche et avec avec quelque chose de plus dans l'air du temps aussi, donc et de plus enthousiasmant, de plus moderne. Ça devient un peu plus évident pour les administrations, mais dans la plupart des administrations, ils ne pensent même pas à intégrer des profils UX/UI dans les projets. Donc ça, je pense que c'est un des bénéfices et un des objectifs aussi du programme, c'est de faire que les administrations pensent à intégrer des compétences de ce type dans leurs projets. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de designers UX/UI qui aujourd'hui ne voyaient pas comment s'y prendre pour pouvoir éventuellement rejoindre des programmes ou des projets qui pourraient les intéresser. En fait, il y a souvent un problème. Les administrations non plus savent pas trop comment faire pour pouvoir attirer ce type de profil et par quel bout prendre ce type de recrutement. Or, entrepreneur d'intérêt général comme designer d'intérêt général, comme on est sur des principes qui ont plutôt bien fonctionné, qui ont une bonne audience, moi j'étais très surprise sur designer d'intérêt général. On a dû recevoir de mémoire, je crois, plus d'une centaine de candidatures. Puis un deuxième truc qui est, je pense, est aussi très important, c'est que dans le cadre, comme on est dans un cadre d'appel à projet, de concours, c'était pareil pour EIG comme pour DIG, on garantissait un niveau de rémunération aussi. Ça, c'est un point important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a fait sur un timing et des missions courtes. Parce qu'en fait, comme ça, on peut garantir un niveau de rémunération attractif, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait une publication de fiche de poste. Si je fais des parallèles avec des administrations qui ont souhaité recruter des UX designers, souvent la fiche de poste n'était pas super attractive. Ils n'ont pas réussi ils la positionnaient pas à un super haut niveau. En termes de rémunération, c'était pas clair. Et je pense que ça donnait vraiment pas envie à des designers UX, par exemple, de déposer une candidature. Alors que là, on est plutôt sur des approches un peu plus challenging, avec des missions qui sont quand même très claires, une rémunération qui est non négociable, puisque les administrations, de toute façon, n'ont pas le choix. Si elles acceptent de recevoir un designer d'intérêt général, la rémunération, elle est calée comme ça et elle est bloquée. Donc je pense que ça aussi, c'est compliqué, je pense, pour des administrations de recruter ce type de profil. Et que avoir une présentation sous forme d'appel à projet comme ça, avec des éléments très clairs, c'est beaucoup plus facile pour elles de recourir après à ce type de prestation. Designer d'intérêt général, c'était vraiment le même esprit qu'entrepreneur d'intérêt général, c'est de faire goûter aux administrations des profils atypiques qui aujourd'hui, ces profils-là viennent assez peu vers les administrations. Et donc, pour partir de la même approche que IG, c'est-à-dire de faire venir ce type de profil dans des administrations sur des missions courtes et avec en même temps des défis concrets et très opérationnels pour qu'après les administrations aient envie de garder ou en tout cas de pérenniser ce type de profil et qu'elles comprennent tout le bénéfice qu'elles peuvent retirer de faire venir ces profils-là sur leur projet. En termes de nom, on ne savait pas si cette notion d'intérêt général allait vraiment marcher ou pas. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que le nom a pas mal marché. Et parce que, finalement, tous ces gens qui ont des profils qui sont pas, qui viennent pas spontanément vers l'État, ben en fait, c'est cette notion d'intérêt général qui les accroche pas mal, finalement. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais entrepreneur d'intérêt général, en fait, c'était inspiré d'un programme américain qui s'appelle les Presidential Innovation Fellows, les PIF. Donc, il y a un programme qu'avait monté Obama, Barack Obama, dans le cadre de l'Obamacare, où en fait, c'était la catastrophe, l'Obamacare. Ça se passait super mal d'un point de vue numérique. Et donc, Obama avait lancé un appel à la Silicon Valley en disant « Venez nous aider, on n'arrive pas à faire des trucs en ligne bien faits dans le cadre de l'Obamacare. Venez consacrer un peu de temps pour aider l'État à sortir ses projets parce que c'était catastrophique. Et en fait, il y a pas mal de profils très tech qui sont venus donner un coup de main. Alors là, pour le coup, gratuitement. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, on s'est inspiré pour Entrepreneurs d'intérêt général de cette idée des Presidential Innovation Fellows. Et où, en fait, on l'a adapté au système français et avec le côté, peut-être pas forcément sexy au démarrage, sur cette notion d'intérêt général, mais au final, qui a plutôt plu et qui a fait venir les gens.
À travers les inspirations du programme français, nous pouvons constater que la modernisation des méthodes de conception pour le service public numérique n'est pas un enjeu propre à notre pays. L'Italie avec Designer Italia, l'Angleterre avec Government Digital Service ou les États-Unis ont conçu des programmes similaires pour résoudre ces problématiques. Dans les deux extraits qui vont suivre, Barack Obama et Jennifer Palka parlent du programme Presidential Innovation Fellows, lancé en 2012.
Hi, everybody. When I took office, one of my top priorities was to apply lessons we'd learned in our innovative high-tech campaign in 2008 to make the federal government smarter, more innovative, more transparent, and more responsive to the American people we serve. One of the ways we've worked to do that is by recruiting incredible talent from the private sector, engineers, startup founders, and developers, for tours of duty, working alongside some of the best public servants in government.
It's an exciting time for people who want to make a big difference in the world. If you're a data geek, an entrepreneur, a developer or designer, a maker, whatever you do, if you're using the skills and tools of the 21st century to make things happen, there are endless opportunities, companies to launch, movements to lead, and platforms to create. But there's one key opportunity to put your talents to use that you may not have thought of, the federal government. Government matters, it matters a lot, and it needs people like you.
Chapitre 2, être designer et designeuse dans l'administration publique. Pour répondre à cette question, nous avons décidé de rencontrer celles et ceux qui ont participé au défi du programme Designer d'intérêt général. Pendant 6 mois ou 1 an, nos invités furent plongés au cœur de l'administration. Cécile a intégré le CHOM pendant 1 an. Son défi consistait à proposer et mettre en œuvre des améliorations ergonomiques de différents portails.
Je m'appelle Cécile Canel, je suis designer, diplômée de l'ENSI Les Ateliers et des Beaux-Arts de Toulouse. J'ai pu participer au programme Designer d'intérêt général organisé par la DINUM, enfin par Etalab exactement. Pendant 1 an, je suis donc partie à Brest et j'ai intégré une administration qui s'appelle le CHOM, le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. Qui est donc à Brest. C'est une administration qui vient de fêter ses 300 ans, qui est très très ancienne, qui a donc pour vocation de produire des données sur la mer, donc par rapport aux eaux territoriales françaises surtout. Et donc ça va, donc je redis, ça va de la production des cartes marines pour les navigateurs à la production de cartes pour les sous-marins de l'armée. Donc c'est un établissement qui est semi-militaire. Et ce qui m'a intéressée, c'était la problématique qui était de repenser les portails internet, deux portails, parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas c'est les deux portails auxquels le grand public a accès. Et ce qui m'a intéressée, c'était la manière de parler de ces données très scientifiques au grand public, et surtout d'intégrer une administration qui n'avait pas forcément l'air de se poser des questions trop d'usage, et de voir comment on partait presque de zéro et d'essayer de construire avec l'équipe ces nouvelles pratiques qui sont d'aller un peu demander l'avis des gens et de se mettre à la place des gens et de refaire le parcours à leur place, de se questionner sur le vocabulaire qu'on emploie, etc. Qui sont vraiment des pratiques presque un peu... On est au-dessus de l'UX, là on est carrément sur se re-questionner soi-même. Je me présente comme designer plutôt généraliste et non pas comme UX designer ou product designer ou service designer, qui sont des métiers du design très précis. Et moi je considère que je m'intéresse à tout type de projet Et donc, j'ai pas envie de m'orienter vers un truc particulier. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu intégrer ce programme. Parce que par rapport au projet, il fallait un profil qui était pas centré sur vraiment un usage, mais qui était capable à la fois d'organiser des ateliers de co-conception, de proposer des maquettes d'interface, de réfléchir en termes de stratégie, un petit peu marketing, mais surtout un petit peu politique. Il y avait tout un aspect aussi communication et humain qui était très important. Donc finalement, il fallait pas, je pense pour ce projet-là, en tout cas, il fallait pas un profil pro-ciblé UX. Mon équipe à Brest, c'est une équipe de professionnels de assez scientifiques d'études des données marines. Donc j'ai travaillé avec un service particulier qui est le service diffusion des données de cette administration, qui a pour vocation de diffuser des cartes marines aux navigateurs, des données sous forme de vecteurs ou de points plutôt numériques qui sont pas forcément accessibles au grand public, et donc il y aura pour vocation de les diffuser aux professionnels, aux industriels, etc. Donc c'est des choses assez quand on connaît pas, c'est assez ça peut paraître un petit peu compliqué. Et donc en tout cas pour dire que c'était pas du tout une équipe de ni de designers ni de personnes qui étaient trop familières du design et des usages centrés utilisateurs. Je suis arrivée dans une équipe où il y avait des développeurs, des géomaticiens, des informaticiens, des communicants, des gens qui travaillaient au marketing. Vraiment, j'étais la seule à faire mon métier là-bas, quoi.
Pour Cécile, le design, c'est faire de la politique. Elle nous explique comment le contexte des administrations pousse à mélanger la question de la stratégie politique avec des objectifs à très haut niveau. Et comment les projets s'inscrivent dans ce contexte afin de faire du design pour les gens.
Pour moi, le design, c'est faire de la politique, surtout dans ces contextes-là de design en administration, parce qu'il s'agit de faire travailler des gens ensemble sur des questions de parcours usager, des questions centrées sur l'expérience usager. Et ça demande de se mettre à la place des autres, de réfléchir à ce qu'on veut dire, à qui on veut toucher, etc. Donc forcément, on arrive sur de la stratégie politique. Ça vient se mélanger à des objectifs à très haut niveau. On a des directeurs d'administration qui sont en lien avec des ministères, qui doivent suivre des voies plutôt que d'autres. Et en fait, nos projets viennent s'inscrire quand même dans des orientations politiques, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est assez intéressant à découvrir, mais c'est pas donné comme ça. Il faut creuser un petit peu les problématiques, se renseigner beaucoup en interne pour essayer de comprendre à quoi sert notre intervention, quel est le but final de tout ça à l'échelle de la direction, par exemple. Et donc, je pense que fondamentalement, on a des rôles politiques. Je rejoins beaucoup ce que raconte Adélie Lacombe à la DITP, qui est designer à la DITP, et qui dit que finalement, faire du parcours usager, c'est déjà de la politique, parce qu'on choisit de faire du design ou de faire les choses pour les gens au mieux. Et en fait, rien que ça, c'est très politique, parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on va pas faire du design pour les gens. On va faire du design pour vendre un truc, et je dis pas que c'est mal, hein, mais c'est comme ça. Ou à faire du design contre les gens même. Et là, dans un contexte d'amélioration du service public, il s'agit de faire du design pour aider les gens, pour faire mieux, pour être plus accessible. Il y a plein de portes d'entrée. Ça va des RGPD à simplement se rendre accessible en termes de langage. Et finalement, se mettre à la place des bénéficiaires, des fois, quand il s'agit d'un service public d'accès aux droits. En fait, ça demande vraiment d'avoir une sorte d'empathie, de refaire le trajet de celui qui n'y connaît rien, etc. Pour moi, c'est très, très politique.
En arrivant au CHOM, Cécile rencontre une équipe à l'écoute et ouverte au changement. Elle fait du dialogue permanent entre les personnes et les pratiques, un outil pour mener à bien son projet.
J'ai été très bien accueillie par mon équipe au CHUM. Et puis, je pense que c'est un champ de possibles et de potentialités qui s'ouvre quand un designer arrive. Parce qu'on a des moyens de représenter les choses, on a des moyens de faire des projets, on a des méthodes de travail qui sont complètement inédites, en fait, pour la plupart des gens. Malgré l'inconnu, un peu l'aspect un peu mystère qu'il y avait autour de moi, de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ici et comment j'allais bien pouvoir les aider, etc. Et bah finalement, moi j'ai trouvé une équipe très ouverte au changement. Et donc le dialogue était permanent et nécessaire parce que moi j'arrive dans un contexte où il y a déjà des pratiques, il y a déjà des décisions, il y a déjà des budgets, il y a déjà c'est-à-dire que je débarque un peu dans un contexte qui est déjà verrouillé. Et l'idée, c'est d'apprendre à discuter avec ces gens qui décident pour essayer d'amener un tout petit peu de changement, de modernisation, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément avec ceux qui produisent, mais plutôt avec ceux qui décident, qu'il faut faire le plus gros travail. Après, il y a ceux qui produisent, donc, et ceux-là aussi sont assez passionnants à écouter. Et donc, j'ai pu collaborer avec eux parce que ils ont un regard technique, un regard technicien. Et il faut savoir, là encore, dialoguer, prendre en compte leur regard sur leur production. Parce que c'est pareil, moi, j'arrive dans un contexte où les gens produisent des choses, ils en sont propriétaires, c'est leur production, et c'est assez difficile de venir remettre en question des fois le bébé un peu des gens. Et là, notamment, il y a des portails qui sont le bébé de certains services, et il faut collaborer avec beaucoup de diplomatie. Alors, quand je dis qu'on ne sait pas trop ce que fait un designer, il faut que je temporise parce que les gens ne sont pas complètement étrangers en réalité aux pratiques du design thinking, par exemple. Parce que dans mon administration, les gens suivent des formations ou reçoivent des intervenants de temps en temps, je sais pas, une fois par an par exemple, des gens qui font de l'UX ou qui font du service. Je pense qu'il y a tout un panel de profils. Qui vient les voir et qui leur fait faire des ateliers de co-conception avec des murs de post-it, quelques anglicismes genre design thinking. Et donc, il y a quand même quelques notions. Après, la notion du parcours usager, quand même, elle est pas, moi, je ne l'ai pas trouvée si répandue. Même si moi, j'appelle ça comme ça, eux l'appelleront autrement. Et parfois, je pense qu'il y a... On veut dire la même chose, mais on a des biais de langage qui sont très différents en fonction de nos domaines d'activité. Et je me suis rendu compte qu'on était souvent d'accord sur plein de choses, mais on n'arrivait pas à se le dire clairement, parce que moi, je disais parcours usager, et eux parlaient de l'opérabilité ou l'opérationnalité de l'IHM, par exemple. Donc, l'interface homme-machine, l'IHM. Et ça, c'est des choses qui m'ont pris... un mois ou deux quand même à percevoir. J'ai rencontré quelques difficultés qui sont plutôt de l'ordre de la logistique, en réalité. C'est vrai qu'on arrive dans des contextes où il faut faire des demandes à des services particuliers pour avoir tel logiciel. Et ça peut prendre 2 mois. Et bon, c'est un rythme, en réalité, auquel on n'est pas forcément familier quand on est en études de design, parce que nous, enfin, tout va très vite. On a des machines pour faire du design et des logiciels pour faire du design. Et quand on arrive là-bas, il y a la suite LibreOffice et il faut remplir une petite demande pour avoir Illustrator et autres. Et après, en termes de décision, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup répété des choses en espérant que ça finirait par prendre. Et donc, faut être très patient parce que les gens ont d'autres missions, d'autres choses à faire. Et là où moi je vois des priorités absolues, eux ils voient un truc à faire éventuellement dans les 6 mois qui arrivent. Et donc, il faut aussi savoir ronger son frein. Et donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment des obstacles, c'est simplement une grande nécessité à s'adapter à d'autres rythmes et d'autres profils qui ne voient pas les ordres de priorité de la même manière.
Alphabet est le défi de l'éducation nationale. Pendant 12 mois, Sarah et Charlotte ont travaillé en duo. Avec 30 académies, 97 directions départementales, 62 000 établissements et 1,2 million d'agents, l'éducation nationale est une administration complexe. Malgré des besoins communs, les services numériques sont le plus souvent proposés à l'échelle des académies et ne sont pas partagés à l'ensemble des agents de l'éducation nationale. Il en résulte des disparités d'expérience entre les territoires et des difficultés à travailler ensemble au-delà de son académie.
Moi, c'est Sarah, je suis product designer. Au niveau de mon parcours, j'ai un background de designer graphique. Je me suis spécialisée au niveau de mes études ensuite en design d'interface et j'ai travaillé principalement sur du produit, notamment chez Doctolib, chez KissKissBankBank. Et je suis arrivée du coup après sur le défi Alphabet, qui est le défi éducation nationale, et donc du coup avec Charlotte qui m'a rejoint sur ce défi.
Moi je m'appelle Charlotte, je suis designer de produits et services numériques. J'ai un double diplôme, à la fois en design d'interaction et en management de l'innovation. Et avant de rejoindre le programme DIG, je faisais du conseil en innovation chez Faber-Novel. Et j'accompagnais des grands groupes dans des programmes d'innovation et de lancement de nouveaux produits. Le défi qu'on a rejoint avec Sarah, le nom de code c'est Alphabet, c'est un nom qui est utilisé par le programme. C'est un défi qui était de 12 mois au sein de la DNE. DNE c'est pour Direction du numérique pour l'éducation. Donc c'est une direction qui est au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Notre mission, c'était de concevoir une plateforme mettant à disposition des outils de travail à distance pour les agents du ministère. Et quand on dit agents, c'est à la fois les enseignants, mais aussi les métiers administratifs et tous les autres métiers qu'il peut y avoir dans une administration comme l'éducation nationale. Il y avait un fort parti pris de l'équipe projet dans notre défi, c'était de mettre à disposition des outils, des logiciels libres, qui sont des alternatives aux solutions propriétaires que peuvent être celles proposées par les GAFA, et notamment par Google. Finalement, une des solutions qui proposait le périmètre fonctionnel qui était attendu, ça peut être le Drive Google et toutes ces solutions. Mais ce n'était pas envisageable dans notre projet, puisqu'il y avait vraiment cette dimension aussi forte de pouvoir proposer une alternative qui fonctionne pour les agents. Ce défi, il avait une double ambition, à la fois de proposer un produit, un MVP, un produit minimum viable, à lancer dans le temps de 1 an, mais aussi de proposer un cadre de travail pour que les différents services puissent travailler ensemble. Ce que nous, on a découvert, c'est que la gouvernance, entre guillemets, du numérique au sein de l'éducation nationale est complexe. Il y a différents acteurs, différentes entités qui sont responsables de certains bouts de ce que peut être l'expérience, on va dire, utilisateur, si on utilise ce terme. Donc, il y a les DSI, il y a les DAN, qui sont les directions académiques du numérique, il y a la collectivité territoriale, il y a le ministère, il y a les partenaires. Et tous ces gens-là ne travaillaient pas ensemble. Donc, notre défi, c'était aussi, par un premier projet, par un premier produit, de leur permettre de se rencontrer et de travailler ensemble pour une ambition commune. Et ça, c'est assez nouveau dans une administration comme l'éducation nationale.
Donc, je venais de quitter mon précédent poste. En fait, je suis partie de mon poste chez KissKiss parce que j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de me lancer dans de nouveaux projets, de travailler sur d'autres problématiques. J'ai entendu parler du coup du programme à ce moment-là et je me suis dit pourquoi pas, ça parlait d'intérêt général, ça me parlait pas mal dans le sens où ça permettait de voir autre chose que les problématiques du privé avec l'aspect commercial. Donc du coup, j'ai suivi mon instinct et j'ai postulé. J'étais particulièrement intéressée par le projet Alphabet parce qu'il y avait un enjeu technique qui était assez fort dessus. Donc l'idée, c'était de construire, de mettre à niveau des outils pour les agents de l'éducation nationale. Et il y avait un enjeu à la fois sur la partie scalabilité des produits, sur la mise à niveau en termes d'expérience utilisateur, d'ergonomie sur ces outils-là. Et ça me paraissait assez intéressant par rapport à ce que j'avais pu voir dans mes expériences précédentes, de pouvoir mettre ça à profit pour ce défi.
C'était une sorte de réflexion sur le cadre de mon métier, de se poser la question de où est-ce que je travaille, pour qui je travaille, et est-ce que je peux exercer mon métier différemment. Je suivais de près le programme GDS qui est en Angleterre, qui a permis de faire venir des designers dans l'administration et d'accompagner les améliorations du service public. C'est un programme que je trouvais hyper inspirant et je me demandais quand est-ce que ça allait arriver en France. En fait, quand il y a eu DG, moi j'ai un peu, c'est ce qui m'a attiré. Je me disais qu'on pouvait aussi faire la même chose. Et l'éducation nationale, c'était plus perso, parce que moi, je viens d'une famille d'enseignants. Et donc, j'ai un peu baigné dans tous les enjeux de ce métier-là. Et je trouvais plutôt intéressant et gratifiant de pouvoir aller travailler dans ce ministère-là et par notre métier, essayer d'améliorer certaines choses. Moi, j'ai le sentiment que l'intérêt général, c'est une composante du métier de designer. C'est quelque chose qu'on porte, qu'on soit dans des entreprises, du privé, qu'on soit dans des associations, qu'on soit freelance. Il y a une partie de notre métier qui est de porter la voix des utilisateurs, parfois de les défendre face à des décisions qui peuvent être des décisions business, techniques. On est aussi ceux qui vont dire c'est ce qui correspond au terrain, c'est ce qui va vraiment aider les gens qui travaillent au quotidien avec les outils. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est comme ça qu'ils ont besoin que ça fonctionne à l'avenir. Et ça m'amène à un point qui a été compliqué pour nous cette année. C'est que on a dû concevoir un outil pour 1 200 000 personnes qui sont tous différents, qui ont une vision de leur métier différente, qui ont des contraintes différentes, qui ont des outils différents. Et il s'agissait de, entre guillemets, concevoir pour tout le monde, essayer de trouver le dénominateur commun de tout le monde pour qu'un outil qu'on propose puisse apporter un bénéfice à un type d'utilisateur sans amoindrir l'expérience des autres. Donc il y avait des arbitrages constants à faire comme ça, un équilibre à trouver qui n'a pas forcément été simple et puisque il y avait les besoins des enseignants qui ne sont pas toujours les mêmes que les besoins des personnels administratifs dans les bureaux. Enfin, il y avait toujours un peu des balances comme ça à faire sur ce projet-là et je pense que ça peut représenter aussi ce que c'est l'intérêt général.
Il y a la notion de concession qui est assez forte dans ça en fait. C'est que dans le privé, par exemple, on a l'habitude de faire des concessions d'un point de vue utilisateur par rapport à des enjeux business qui, des fois, sont plus forts et qui drivent aussi les décisions. Et dans l'intérêt général, on ne devrait pas avoir autant d'éléments qui interfèrent dans les besoins des utilisateurs. Ça devrait être ça qui drive, en fait, finalement, la conception et d'où la place du design aussi pour écouter, comme tu disais, Charlotte, écouter ses voix et écouter les vrais besoins qu'il peut y avoir derrière. À la fois de ne pas pouvoir faire de concessions, c'est cette notion de, en tout cas à l'éducation nationale, d'avoir autant de monde, autant de profils différents. Et c'est difficile d'arbitrer et de trouver le bon équilibre sur ça en fait.
Sarah et Charlotte ont réalisé de nombreuses interviews utilisateurs et fédéré une communauté pour aider le projet à mûrir, mais également pour prendre les bonnes décisions. Même si le contexte n'était pas toujours propice, elles ont essayé de faire avancer la vision du projet tout en apportant un regard neuf. Celui de designer, en utilisant leur méthode de conception.
On a fédéré une communauté de 250 à peu près contributeurs qui échangeaient sur CHAP. CHAP, c'est la messagerie interne, inter-administration de l'État. Et voilà, on avait des enseignants de différentes académies, de différents parcours qui venaient parler autour du produit, qui venaient remonter des bugs, mais qui venaient aussi proposer des choses, raconter leur expérience. Là, c'était plutôt intéressant.
Il y avait un contexte qui n'était pas forcément évident parce qu'on avait... déjà, nous, de notre côté, et développeurs de l'autre côté, on venait du privé et du public, chacun d'univers différents qui n'avaient pas l'habitude d'échanger ensemble. On avait des développeurs qui avaient très peu travaillé avec des designers qui ne connaissaient pas du coup ce qu'on pouvait leur apporter, qui se posaient des questions au départ. Du coup, vous allez nous fournir quoi? On va avoir des écrans, on va avoir des maquettes, on va avoir concrètement qu'est-ce que vous allez nous fournir? Comment ça va se passer? On avait aussi des petites contraintes techniques aussi du fait de travailler avec une équipe qui a l'habitude de travailler avec des logiciels libres. Il faut savoir que dans le métier de design, en fait, ces logiciels existent très peu. Donc, du coup, forcément, il y avait une passerelle à créer. Et donc, du coup, des difficultés qui, en apparence, paraissent pas si compliquées que ça, en fait, à surmonter. Le fait de la distance, je pense, a pu jouer aussi sur le fait que ça n'a pas forcément été évident au niveau des échanges. Mais du coup, c'est des petites choses qu'on a dû mettre en place au fil de l'eau, en fait, et essayer de voir comment on pouvait s'intégrer dans leur quotidien de travail, de comment leur communiquer des choses. Il faut savoir que c'était un outil sur lequel ils avaient déjà travaillé depuis un moment. Donc, nous, on est arrivés aussi à leur niveau un peu en fin de projet, où l'idée, c'était un peu de mettre à niveau graphiquement, visuellement, pour rendre ça à la fois utilisable et attrayant pour pouvoir ensuite le présenter à des académies, montrer ce qui est en train de se construire pour les convaincre de participer en fait à cette grande image qui était ce projet. ils n'attendaient pas forcément à être davantage challengés sur la conception, sur qu'est-ce qu'on devait faire de plus en fait que rendre un catalogue qui soit facile à utiliser en fait.
Ne pas préjuger de ce que veulent les gens, enfin de ce que veulent les utilisateurs, de ce que veulent les agents. Il y avait aussi beaucoup cette dimension de on sait ce que veut le terrain, on sait et donc on fait ça. Et je sais que nous quand on a commencé à dire on va aller demander aux gens si c'est bien ça, si c'est bien ce qui correspond, on va tester. Au début, ça a fait un petit peu peur, ou ça a surpris plutôt, ça les a surpris, parce que c'est pas du tout quelque chose qui était un réflexe. Et nous, on a beaucoup bataillé là-dessus pour se dire, c'est pas Sarah et moi qui prenons des décisions, on prend des décisions, mais on les prend pas basées que sur notre intuition et sur notre vision de notre métier. C'est parce qu'on est allé confronter ça, et on s'est renseigné, on a proposé des choses aux personnes qui nous ont fait des retours. Enfin, certains avaient l'impression qu'on ralentissait, mais en fait, on ralentissait pour mieux accélérer par la suite et accélérer sur des bases saines et mettre en place quelque chose de pertinent, de flexible, qui puisse aussi être solide. Et ça, c'était hyper important.
On essaye de faire avancer leur vision du projet, mais en même temps, on essaye d'apporter un autre regard et progressivement l'intégrer dans la conception, dans la conception à la fois du produit, mais aussi du concept, on va dire, du projet qu'il y a derrière, de faire travailler les gens ensemble.
On a eu du mal à aller chercher la direction, la direction dans le sens le directeur sur notre projet. C'était assez frustrant parce qu'on s'est très vite rendu compte que si on voulait que le projet avance, soit ancré dans l'administration, il faut aussi l'aval de la hiérarchie, il faut travailler avec eux. Et nous, on a eu beaucoup de mal à être visible par cette hiérarchie. Le confinement nous a aidé à être visible, en fait, à que le projet soit visible, à que l'initiative soit mise un peu en lumière. Parce que sinon, on pouvait avancer un peu en sous-marin, faire des choses, ça nous donnait pas mal de liberté pour tester, etc. Mais pour que ça puisse vraiment avoir un impact, il fallait aussi ça. Et ça a été un peu frustrant à plusieurs moments de l'année. Et ouais, je pense qu'on a aussi eu de la chance. On s'est posé la question, est-ce que ce projet va sortir un jour? Est-ce que cette plateforme va sortir un jour ou jamais? On a eu de la chance qu'il y ait une première release, une première sortie pendant qu'on était là. Voilà, ça aurait pu ne pas être le cas parce qu'un an à l'échelle de l'administration, c'est très court.
Notre dernier invité, Maxime, est intervenu sur le défi France Connect. Engagé pour une mission de 6 mois, il a depuis été prolongé pour une durée de 3 ans. France Connect est un fédérateur d'identité numérique lancé par l'État en 2015. Il permet de se connecter à des services en ligne, publics et privés, en utilisant des comptes déjà existants, comme Amélie, La Poste ou Impôts.gouv. Or, près de 40% des utilisateurs et utilisatrices de France Connect ne vont pas au bout de la connexion. L'équipe support reçoit de nombreuses remarques sur ces difficultés.
Donc moi, je m'appelle Maxime Beaugrand. J'ai fait une école d'art appliqué en 5 ans qui s'appelle IARTSUP, à la suite de quoi j'étais passé rapidement par l'ESCP Europe, une école de commerce pour une formation sur l'entrepreneuriat. Justement, peut-être un petit clin d'œil à ce que j'ai fait par la suite. Voilà, en sortant de tout ça, j'ai tout de suite commencé à travailler pour le journal Le Monde. J'y suis resté presque 6 ans. Je suis entré comme graphiste web en freelance. Et en fait, mon poste là-bas a évolué en même temps que le rôle du design a grandi dans l'entreprise. Donc voilà, à la suite de ces 6 années, j'ai répondu au programme designer d'intérêt général. J'ai été sélectionné pour le défi France Connect. J'y étais pour une mission de 6 mois, dans laquelle il y avait des objectifs assez clairs d'amélioration de la qualité du produit. Quand j'entends qualité, c'est à la fois l'utilisabilité, la simplicité d'utilisation, mais aussi sa compréhension et sa bonne explication finalement, parce que le défi réside dans comment expliquer France Connect, ce qui n'est pas une chose évidente. À la fin des 6 mois, on avait grosso modo les grosses recommandations qu'il fallait pouvoir implémenter. Aujourd'hui, j'ai été prolongé pour 3 ans. C'est super parce qu'on va avoir l'opportunité d'implémenter toutes les recommandations qu'on a pu faire au bout de 6 mois. Donc on va pouvoir les mettre vraiment en production, apprendre dessus et continuer à faire évoluer le produit tout au long de ces années. Moi, ce qui m'a motivé, en fait, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est le nom, designer d'intérêt général. Ça m'a beaucoup parlé. Pour moi, ça devrait être un pléonasme quasiment. J'avais déjà un peu une notion d'intérêt général dans ce que je faisais au monde, c'est-à-dire essayer de diffuser l'information, la rendre la plus claire et la plus accessible possible. Il y avait cette notion de service public presque, que j'ai retrouvée encore plus fortement, programme des designers d'intérêt général. Et donc, c'est pour ça que ça m'a motivé, ça me rapprochait encore des utilisateurs. Je crois qu'aujourd'hui, on passe la barre des 19 millions de personnes qui utilisent France Connect. Donc voilà, c'est une responsabilité et en même temps, c'est vraiment une chance de pouvoir mettre ses compétences au service d'autant de personnes dans quelque chose de sain. C'est une équipe qui était déjà bien organisée, assez autonome, qui arrive à être relativement réactive par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'était, je pense, une chance dans l'administration. Je suis pas sûr que tous les designers d'intérêt général aient eu ce contexte assez favorable, où en fait, voilà, l'équipe a été très, très accueillante. Ils avaient en fait déjà bien cerné leurs problèmes. Ils savaient qu'ils avaient un manque en termes de design, et donc j'ai assez vite trouvé ma place là-dedans. J'ai pas eu beaucoup de pédagogie à faire sur qu'est-ce que le design. Je l'ai fait quand même pour être sûr qu'on soit tous sur les mêmes bases, en prenant toute l'équipe, même l'équipe élargie au bout de quelques semaines pour faire une présentation sur qu'est-ce que c'est l'UX, d'expliquer ma méthode. Et ensuite, voilà, il y a un point un peu plus large avec l'équipe où toutes les deux semaines on fait une rétro. Et là, voilà, toutes les deux semaines aussi, je prends la parole pour expliquer ce que je fais. Et donc voilà, tout le monde est très preneur de ce genre de choses. Tout le monde est très, très bon public. Je pense que ça fait du bien à tout le monde d'entendre des choses, même si elles sont négatives finalement sur le produit, parce que voilà, ça veut dire que il y a des gens derrière, des vrais gens qui les utilisent, et que nous on rend service, donc et qu'on va le rendre de mieux en mieux. Je l'ai pas mentionné, mais plus que des restitutions, il y a aussi des ateliers où j'essaye de faire participer l'équipe. C'est un peu plus compliqué pour moi en période de Covid parce que j'ai pas beaucoup l'expérience sur l'animation d'ateliers à distance. Mais voilà, quand on était encore en bureau tous ensemble, j'ai fait participer un peu toute l'équipe, à la fois des ateliers de conception du produit, à la fois des ateliers de recherche utilisateur, donc des tests, où je faisais participer en tant que scribe, en tant qu'observateur simplement. Voilà, ça aussi, je pense que c'est essentiel d'impliquer tout le monde pour qu'ils comprennent à la fois ce que je fais et à la fois ce que eux font aussi d'une certaine façon, ce à quoi ils participent. C'est beaucoup plus simple après pour les emmener.
La particularité du produit du Défi France Connect réside dans son lien avec les sites partenaires qui proposent ce service. Ces partenariats ont amené Maxime à collaborer avec de nombreuses administrations publiques et acteurs privés. S'il n'a pas rencontré de difficultés particulières avec son équipe, il a en revanche pu observer une certaine disparité dans la maturité design des partenaires avec qui il a pu collaborer.
France Connect est présent sur des acteurs à la fois étatiques, d'administration, des collectivités, mais donc aussi sur des acteurs privés. Donc en ça, voilà, j'étais amené à travailler avec beaucoup d'administrations différentes. C'était très intéressant de voir les différents contextes justement de chacun, leur niveau de maturité par rapport au design. Comme je le disais, il y a des équipes qui vont être très à la pointe, ou en tout cas bien organisées, qui vont avoir leur propre service de recherche design. Il y en a même qui nous proposent des choses sur France Connect, qui font leurs propres tests de leur côté, qui nous les restituent, qui nous donnent un petit peu d'informations. Et il y en a d'autres où voilà, c'est très très segmenté. Il y a un décideur tout en haut qui a l'air très technique, qui dit bon d'accord, moi, mon calendrier c'est dans 6 mois, on aura peut-être une fenêtre d'une demi-journée pour faire quelque chose chez vous. Où on sent que voilà, l'utilisateur est pas encore vraiment là dans leur esprit. Donc c'est très très disparate. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, il y ait une homogénéité dans la culture UX et dans l'appréciation de l'utilisateur, du besoin de l'utilisateur dans les administrations. Vraiment, comme elles sont relativement cloisonnées, même dans des services qui peuvent parfois être assez proches, c'est très variable. Étonnamment ou pas, j'ai pas beaucoup rencontré de gros soucis. J'ai rencontré des petites choses en fait qui sont inhérentes à l'administration, qu'on n'attend pas forcément. Moi, je m'attendais à avoir des grosses lourdeurs dans le temps de production, je m'attendais à devoir vraiment batailler pour me faire entendre et prioriser les travaux design. Ça n'a pas été tant le cas, en fait, les petites choses sur lesquelles j'ai buté, c'est des trucs comme acheter une licence Sketch, acheter des logiciels un peu spécifiques au design qui, en fait, sont des choses qui ne rentrent dans aucune de leurs cases et qui se retrouvent pratiquement insolubles, et si ce n'est pas dans leur catalogue à eux. Vraiment, ça peut être très compliqué, voire impossible finalement de s'en sortir. Et après, des choses qui sont plus dépendantes d'autres acteurs que France Connect, comme je le disais un petit peu, tant de réactivité chez d'autres, des gros acteurs qui vont avoir des calendriers de mise en production sur l'année, en fait, et si on n'est pas là au bon moment pour évoquer le sujet, et ben en fait, faut se reparler l'année prochaine, et si l'année prochaine on n'est pas là au bon moment, et ben en fait, on est là dans 2 ans.
Chapitre 3, questionner le programme et son impact. Pour conclure cet épisode, nous avons demandé à nos invités de faire le bilan sur leur expérience. Quels sont leurs principaux apprentissages et comment cette expérience a pu influencer leur vision et leur pratique du design?
Finalement, en prenant le temps de discuter avec mon équipe, on a pu faire évoluer un projet qui partait plutôt pour être de l'UX un peu classique. On a pu le faire évoluer très tranquillement vers un projet de stratégie globale du CHUM. C'est-à-dire quelque chose qui va mélanger l'aspect communicationnel, l'aspect UX et interface numérique, internet, etc. L'aspect marketing de comment finalement la grande question de tout ça, c'était comment le CHUM se raconte à l'extérieur et non plus à l'intérieur, puisqu'il y avait quelque chose de très quelque chose qui restait très à l'intérieur sur la manière de parler de soi, etc. Et toujours du vocabulaire métier, comme on dit, toujours rarement quand même tourné vers les usagers extérieurs. Et donc le projet a dézoomé comme ça, très 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 lentement, d'un truc très précis qui était refaire un site internet à ok, on refait le site internet, mais en fait qu'est-ce qu'on dit à travers ça? Et est-ce que du coup on pourrait pas tous les refaire? Et comment est-ce qu'on pourrait changer notre manière de parler? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour aller se raconter à l'extérieur, etc. Ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est d'abord un apprentissage à parler autrement. J'ai appris à discuter avec vraiment beaucoup de diplomatie et de patience des projets. Et j'ai pu aussi essayer d'amener des potentialités avec plus de subtilité que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que vraiment, il faut savoir tout le temps doser ce qu'on peut dire sans avoir l'air de précipiter ou de se lancer dans un projet complètement fou. Il y a toujours ce truc de doser en permanence ce qu'on dit pour que ça passe sans froisser personne.
Moi, j'ai retiré beaucoup de satisfaction de travailler pour le service public, ouais, de travailler, comme je disais, pour les citoyens, pour des utilisateurs qui sont en train de faire des démarches concrètes à un moment un peu pénible, souvent, dans leur vie, même s'il y a des démarches qui peuvent être positives. Ouais, ça reste un moment, somme toute, compliqué. Participer à une meilleure dématérialisation des démarches, pour moi, c'est essentiel d'être parmi les premiers designers, finalement, en fait, au sein de l'administration. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte tous les DIG, qu'on était parmi les premiers vrais designers internalisés vraiment au sein des équipes. Ça paraît fou parce que voilà, en 2020, tout est conçu. Et puis pour tous les produits, il y a des designers. Pour une chaise, il y a des designers. Pour un stylo, il y a un designer. Mais par contre, pour un site qui va être utilisé par des millions de personnes, il n'y aura pas de designer. Et ça pose des problèmes à personne dans l'administration. Heureusement, ça commence à imposer. Et de toute façon, on se rend compte aujourd'hui que ça impose aux utilisateurs, et c'est bien que cette prise de conscience elle ait lieu. Et moi, je suis très content, ouais, d'être dans ce mouvement-là et de pouvoir continuer. Je pense que voilà, la porte s'est ouverte et il faut qu'on fasse tout pour rentrer au maximum dedans et continuer à faire avancer ce mouvement et apporter la voix des utilisateurs au sein des administrations parce que c'est essentiel, voilà, aujourd'hui. Pour moi, ça a renforcé ma vision du design. Clairement, ça m'a conforté dans ma pratique. Je pense que je travaille à peu près toujours de la même façon. C'est-à-dire que j'essaye de faire assez rapidement, assez vite, de montrer des choses. Je pense que la pédagogie vient en accompagnement. Elle vient comme la couche en plus. Mais le cœur du design, ça reste de résoudre les problèmes, de faire des maquettes, de faire des choses. Et c'est par ça que j'avance. Je pense que c'est comme ça qu'on se fait comprendre, autant au niveau des collègues que des décideurs. Résoudre le problème de l'utilisateur, ça reste ma motivation principale, mais faire en sorte que les gens qui collaborent avec moi aient aussi à cœur de le résoudre, c'est la deuxième chose importante, quoi.
Moi, je trouve que cette expérience, elle m'a énormément appris sur moi, sur mon métier et même sur le fonctionnement de l'administration, qui
pour moi était très opaque avant DIG. Dans les médias, on voit beaucoup de pouvoirs politiques. Enfin, c'est eux qu'on voit. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les bureaux, enfin ce qui se passe dans les administrations, à part les administrations où on a été confronté. Enfin voilà, on peut aller à Pôle Emploi, à la CAF, on a été à l'école, des choses comme ça. Mais on ne se rend pas compte aussi de tous les autres gens qui travaillent pour le service public et être un peu dans les coulisses. Moi, ça a beaucoup changé mon regard aussi sur le service public. Alors maintenant, quand je vois quelque chose, je pense aux gens qui l'ont conçu, qui ont peut-être galéré, qui n'avaient peut-être pas les bons outils, les bonnes formations. Enfin, je vois ça que je ne voyais pas avant. Et puis sur le plan professionnel, moi j'ai l'impression que ça m'a permis de revenir un peu aux fondamentaux de notre métier, un peu à l'essentiel. Il fallait qu'on ait une approche frugale cette année. Il fallait qu'on... On n'avait pas de budget, on n'avait pas des ressources infinies en développement, en design aussi, enfin... Il fallait qu'on aille à l'essentiel. Et ça, c'était un super apprentissage. Et pareil aussi, quand je disais les fondamentaux de notre métier, c'est épurer le métier du jargon qu'il peut y avoir parfois, revenir un peu à la simplicité. Cette année, ça m'a appris ça.
Moi, il y a deux aspects en particulier aussi qui m'ont marqué, c'est je parlais du coup d'accepter que un petit truc c'est déjà beaucoup, que ça peut avoir de l'impact. Il faut accepter les contraintes, apprendre à faire avec et se dire que en fait si déjà cette petite chose ça change beaucoup de choses pour d'autres personnes, il faut le faire et il faut savoir un peu mettre son ego de côté, je pense aussi, se dire que ok, on va pas faire le truc hyper ouf tel qu'on l'imaginait. Tel qu'on imagine, se dire qu'il faut forcément que le produit soit complet pour que ça adhère, il faut apprendre à y aller progressivement et en fait accepter en fait qu'on maîtrise pas tout, qu'il faut s'adapter, qu'il faut être un peu résilient par rapport à ça, il faut prendre un peu de recul aussi et d'esprit critique, d'accepter en fait que tout peut pas être parfait et que il faut faire avec et que même avec ces contraintes, il y a quand même des choses qui peuvent sortir et qui peuvent aider et que c'est un petit truc plus un petit truc plus un petit truc qui peut-être à terme permettront de déjà d'améliorer l'expérience de certaines personnes par rapport à des problématiques précises, mais aussi peut-être que le fait d'avoir été dans un service pendant un an avec un regard des métiers complètement différents, le fait peut-être aussi d'avoir deux profils assez jeunes finalement dans une administration, en fait ça apporte d'autres choses qui sont peut-être moins tangibles et qui apportent aussi quelque chose quoi. Mais ça, c'est, je pense que c'est des choses qu'on peut voir après quoi.
L'enjeu du programme était de moderniser les méthodes de conception des services publics numériques grâce à l'intégration temporaire de designers et designeuses dans ces services. Les designers et designeuses d'intérêt général ont encouragé les équipes à concevoir des services autrement. Mais est-il possible d'avoir un impact à long terme en si peu de temps? C'est la question que nous avons posée à nos invités.
Je crois que les équipes étaient assez enthousiastes à la fin du projet parce que les maquettes qu'on a proposées tous ensemble, et j'insiste, c'est vraiment un travail d'équipe, ont ouvert les potentialités. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qui ont eu des oufs de soulagement en disant « Mais voilà, oh là là, il faudrait qu'on fasse ce truc, ça serait vraiment beaucoup plus clair pour le public, ça serait vraiment... » Enfin, il y a vraiment des réactions d'évidence un petit peu qu'il fallait carrément re-questionner tout ce temps qu'on emploie tout le temps pour discuter de données scientifiques, quoi. Force de les embêter au quotidien, de venir re-questionner la couleur de tel logo et la suite logique de tel clic sur telle page du site, j'ai quand même vu que l'équipe se posait de plus en plus de questions. Et donc je sais pas quel est le résultat 5 ans plus tard de mon intervention. Par contre, je sais que au quotidien, ils se remettent plus en question. Et ils se mettent un petit peu plus à la place des gens qui n'ont pas leur métier et qui vont quand même devoir utiliser leur portail. Parce que finalement, le biais principal, c'est d'être technicien et de penser avec ses mots et ses connaissances très techniques et de fabriquer une interface pour le grand public. sans se rappeler que le grand public n'y comprend absolument rien. J'étais pas du tout le messie en termes de stratégie, mais c'est par la discussion que mon équipe s'est elle-même aussi reposé des questions. Et je pense que c'est vraiment le fait de discuter, de se poser des questions là où on n'en posait plus, parce que ça paraissait évident, ou ça paraissait figé, où on s'est dit c'est comme ça depuis toujours, alors pourquoi changer, etc. Et le fait d'organiser des ateliers, d'aller chercher des gens qui paraissent étrangers au projet, mais en fait, si on creuse un peu, ils sont producteurs de données, donc finalement, leurs données se retrouvent sur le site, même s'ils sont très éloignés dans la chaîne, ils ont un avis là-dessus. Et aller chercher comme ça l'avis un peu de tout le monde, c'est quelque chose qui, à la fin, donne une stratégie globale, puisqu'on croise les regards, et à force de croiser les regards, on est capable d'aller chercher des buts, je pense, un peu plus larges, quoi, un peu plus vastes.
En fait, pour nous, c'était hyper important que le produit qu'on conçoit soit aussi un objet de discussion, un objet qui fasse réagir et qui fasse se poser des questions à l'administration et donc et aux équipes. C'est vrai que en ça, c'est un petit succès. Moi, je pense que les agents avec qui on a travaillé, ils ont découvert des nouvelles façons de travailler, des nouvelles approches. Et forcément, ça laisse des traces, des questions qui ont été ouvertes, des prises de conscience. C'est souvent difficile de revenir en arrière, donc je pense que ouais, ça a eu un impact. Une anecdote, c'est, on en a parlé un peu, mais c'est notre équipe de développeurs qui au début était très critique par rapport aux interviews utilisateurs, enfin en fait d'aller sur le terrain, etc., et qui à la fin s'est complètement pris au jeu et ils étaient capables eux-mêmes de faire des petites séances de tests où ils montraient ce qu'ils faisaient à des enseignants. Je me souviens qu'une fois il avait posté un message en disant c'est génial, j'ai parlé avec 3-4 enseignants, ils m'ont donné plein d'idées, ça a complètement changé la vision que j'avais du besoin. Et je sais qu'avec ça, on s'était dit, yes, c'est chouette, voilà, quelque chose de concret, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de choses concrètes comme ça. Mais ouais, la route est longue. Hein.
Alors, ma mission, elle a d'abord eu un impact sur les utilisateurs, parce qu'on voit aujourd'hui que les évolutions qu'on fait améliorent l'usage. Elle a eu un effet au niveau de l'équipe. Ils comprennent les enjeux liés au design dans la présentation de France Connect chez nos partenaires. Et ensuite, je pense que le fait que l'équipe France Connect ait un designer, je pense que ça peut amener d'autres équipes à vouloir aussi un designer ou à se dire, OK, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas complètement au clair. Ou alors, on va avoir besoin de s'outiller, on va avoir besoin de s'armer, de se renforcer sur ce genre d'aspect parce que France Connect, maintenant, ils sont carrés et il va falloir qu'on soit carrés aussi. Les designers intérêt général, dans ce programme, il y a vraiment un truc très sympa, c'est qu'il y a un aspect de promotion qui est mis en avant. Il y a une promotion qui est créée, donc il y a un esprit de corps voilà, qui essaye d'être lié entre les différents designers qui sont là. Un lien qui est fort parce que voilà, il y en a besoin de se soutenir par moment, comme on peut être isolé. La particularité de cette communauté, c'est qu'elle est naissante. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de designers dans l'administration, alors qu'il y a beaucoup de choses en commun à partager dans l'expérience, dans la connaissance des usagers. Plus il y aura de designers dans les administrations, plus ça sera facile de les identifier, de faire appel à eux. Ils auront certainement su s'organiser les uns avec les autres pour mettre en commun leurs connaissances. Donc je pense que c'est vertueux en termes de propagation du design. Il y a quelque chose à créer dès maintenant pour que le design ne rentre pas dans ce cloisonnement qui est très fort dans l'administration, dans lequel on a tous tendance un peu à tomber, qui est difficile. C'est difficile de lutter contre. Mais c'est important qu'on garde cette spécificité, en tout cas cette fraîcheur, je ne sais pas comment le définir, mais cette liberté un petit peu d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter une nouvelle façon de travailler et de communiquer au sein des administrations.
Je pense qu'on a perdu un peu la vision romantique, entre guillemets, de ce que c'est d'être un designer d'intérêt général. On va pas claquer des doigts et y arriver, quoi. Ça prend du temps. Et moi, je sais qu'en parlant avec d'autres personnes qui ont pu travailler dans l'administration en tant que designer dans d'autres contextes, ils me disaient oui, en un an, tu peux rien voir. C'est en minimum 3 ans que tu commences à voir que ça avance.
Beaucoup Bokulano namae wa wasule salabe. Bokulano konai wa wasule salabe. Iko uki kumono